Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Réouverture de la frontière de Bunagana entre la RDC et l'Ouganda. En l'absence des officiels congolais, la ministre d'État aux Affaires étrangères appelée à prendre des dispositions pour obtenir des explications claires de la part des Ougandais. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres d'hier vendredi à Kinshasa. Le choléra fait rage à travers la RDC. Au Maïndombe, la division provinciale de la santé parle de 171 cas, dont 19 décès, et le nombre des zones de santé touchées passe de 5 à 7. Au Congo central, 5 cas suspects sont signalés dans le territoire de Songololo. À l'Équateur, par contre, la solution vient d'être trouvée pour la prise en charge des cas de choléra dans les 9 zones de santé affectées par la maladie. Et puis, la problématique des perturbations environnementales et le développement durable a fait l'objet d'un colloque international organisé cette semaine à Goma. Pour en parler, nous recevons le professeur Ndemo Mbassa, doyen de la faculté de santé publique à l'Université libre des pays des Grands Lacs, ULPGL Goma. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par la réaction du gouvernement congolais concernant la réouverture de la frontière de Bunagana entre la RDC et l'Ouganda par les autorités ougandaises en l'absence des officiels congolais. Réouverture intervenue le jeudi dernier au cours de la 51e réunion du Conseil des ministres tenue hier vendredi. Il a été demandé au ministre d'État en charge des Affaires étrangères de tout faire pour prendre des dispositions afin d'obtenir des explications claires de la part des Ougandais. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, dans le compte-rendu de cette réunion. Santé à présent. Augmentation des cas suspects de choléra dans la province de Maïndombe. À ce jour, la division provinciale de la santé parle de 171 cas, dont 19 décès, et le nombre des zones de santé touchées passe de 5 à 7. Le gouvernement provincial rassure que le gouvernement central va doter la province en médicaments et annonce que les opérations de surveillance seront intensifiées, notamment aux limites avec les provinces touchées, afin de lutter contre la propagation de la maladie. Lebon Kosokevani invite aussi la population au respect strict des mesures d'hygiène. On écoute le gouverneur de Maïndombe au micro de Irène Boma.
Nous, en tant qu'exécutif provincial, avec les moyens des bords, nous avons appuyé la division provinciale de la santé avec un peu de moyens pour déjà mener la riposte contre cette épidémie. Hier, j'ai été reçu par le ministre national de la santé et le ministre nous a rassuré que vraiment les médicaments sont disponibles pour le moment. Il ne reste que les dispatching. Et surtout là, c'est un message que je suis en train de lancer à la population de respecter les gestes barrières tels qu'indiqués par la division provinciale de la santé, les zones de santé, les centres de santé. Ces mesures doivent vraiment être respectées à la lettre. Tous les mouvements doivent être contrôlés. Donc nous avons des services de l'État qui sont placés partout et les mouvements les déplacements doivent être vraiment contrôlés. Je crois que ce qui pose un petit souci pour le moment, ce sont des médicaments et certains matériels qui manquent. Mais dans peu de temps, et selon l'assurance que j'ai reçue du ministre national, dans peu de temps, il va y avoir les dispatching et nous allons vraiment ensemble lutter.
Choléra aussi dans le territoire de Songololo au Congo central. Ici, on parle de 5 cas suspects notifiés dans l'aire de santé de Kiasungwa dans le secteur de Kimpese. Les malades présentant des symptômes de diarrhée aiguë sont enregistrés en une seule journée du jeudi 10 juillet et c'est une première depuis l'annonce de l'épidémie de choléra dans le pays. C'est ce que rapporte le médecin chef de zone de santé de Kimpese. Docteur Jean-Claude Batalé appelle les personnes de bonne volonté à appuyer la zone dans cette lutte. Nous y reviendrons. À l'Équateur, pendant ce temps, la solution vient d'être trouvée pour la prise en charge des cas de choléra dans les 9 zones de santé affectées par la maladie. Le chef de division provinciale de la santé dit avoir reçu l'appui alimentaire de la part du gouvernement provincial et en médicaments offerts par l'UNICEF pour assister les malades de choléra. Cet appui fait suite à une correspondance de notables de la jeunesse du territoire de Lukolela adressée au gouverneur de province de l'Équateur, dénonçant le manque de prise en charge d'une vingtaine des cas de choléra dans ce territoire. Docteur Nicole Kumbolani, chef de division provinciale de la santé Équateur, est jointe depuis Mbandaka par Askin Zigbiataoro.
L'épidémie progresse
Maintenant, ça atteint les autres zones de santé, entre autres les Lukolela, les Makanza. Alors, les partenaires aussi, ils se sont concertés. Ils ont mis les paquets en médicaments. Ils nous ont présenté au niveau de la DPS. À notre niveau, nous faisons déjà des colisages pour envoyer dans les zones de santé affectées et non affectées. C'est le gouvernement provincial qui nous avait doté dans les volets prise en charge alimentaire. Alors, déjà, dès aujourd'hui, les colis seront prêts et dès demain, les convois iront déjà dans les zones de santé. Les médicaments, c'est l'UNICEF qui nous a donné et l'acheminement vers les zones de santé, ça sera avec l'appui de l'OMS. Espérons que d'ici demain, les zones de santé commenceront déjà à être servies.
Retournons au Congo central, je vous le disais tantôt, le choléra est aussi signalé dans le territoire des Songololo. Ici, on parle de 5 cas suspects notifiés dans l'aire de santé de Kiasungwa, dans le secteur de Kimpese. Les malades présentant les symptômes de diarrhée aiguë sont enregistrés en une seule journée d'hier jeudi et c'est une première depuis l'annonce de l'épidémie de choléra dans le pays. C'est ce que rapporte le médecin chef de zone de santé de Kimpese. Docteur Jean-Claude Batale Kwao appelle les personnes de bonne volonté à appuyer la zone dans cette lutte. On l'écoute.
Et nous avons notifié dans l'aire de santé de Kiasungwa 5 cas suspects de choléra. 4 avaient un état modéré et 1 qui avait une déshydratation sévère. Les 4 ont été pris en charge au niveau du centre de santé et la personne qui avait un état sévère a été directement acheminée vers l'hôpital général de référence IME Kimpese. Et nous disons, l'aire de santé de Kiasungwa se situe à 30 km de la cité de Kimpese. Ce qui veut dire que si rien n'est fait à ce niveau, la maladie va directement affecter la cité de Kimpese. Avec la promiscuité que nous connaissons dans la cité de Kimpese, la situation sera très très défavorable. C'est ainsi que nous avons demandé à la communauté de bien vouloir respecter les mesures d'hygiène. De chauffer les aliments avant de les manger, de bouillir de l'eau avant de les consommer, mais aussi de pouvoir prendre de l'eau à chaque fois qu'on sent déjà un malaise avec la diarrhée. Nous tenons à demander à tout un chacun de bonne volonté de bien vouloir nous venir en aide parce que nous sommes désarmés avec certaines molécules, entre autres le chlore, les ringères lactates, les sérums physio, pour que nous puissions prendre en charge cette communauté.
Autre nouvelle, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, à Lubumbashi précisément. Des cas de braquage à répétition sont signalés dans la ville depuis une semaine. Le dernier en date est celui d'un cambiste tué au cours d'un braquage survenu dans la soirée d'hier vendredi. D'après des témoins, l'incident s'est produit au quartier Salama, au niveau de 5 Payotes. D'après la société civile du Haut-Katanga, en l'espace d'une semaine, il y a eu 2 morts, quelques blessés et plusieurs cas de braquage ciblant des cambistes. Il y a aussi des vols des véhicules et d'autres cas de cambriolage dans plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi. Paulin Munanga nous en parle.
L'attaque armée a eu lieu vers 19h ce vendredi, rapporte des témoins. La victime, un changeur de monnaie répondant au nom de Titina, est froidement abattu d'une balle dans la tête par des bandits armés. Ces derniers volent une importante somme d'argent avant de disparaître dans la nature. Les mêmes sources précisent que la victime gérait un bureau d'échange et un point de vente Canal+. D'après le team leader provincial en charge de la gouvernance sécuritaire et paix au sein de la société civile du Haut-Katanga, en l'espace d'une semaine, 8 cas de braquages ont ciblé des cambistes à Lubumbashi. Il y a une dizaine de cas de vol de véhicules et d'autres cambriolages. Bertin Chos précise que les auteurs de ces actes sont des hommes armés et en uniforme non autrement identifiés. Il ajoute que la plupart de ces cas sont perpétrés dans la périphérie de la ville de Lubumbashi. Et parmi les 2 morts enregistrés, il y a les cambistes d'hier au quartier Salama et un autre au quartier Ewabora. La police promet de s'exprimer au sujet de cette montée de la criminalité à Lubumbashi incessamment. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, le bilan du carnage dans le sud du territoire d'Irumu vient de s'alourdir. Il passe ce samedi de 31 à 66 personnes tuées par des rebelles des EDF dans plusieurs villages de la chefferie de Walesevankutu. Les 6 derniers corps ont été retrouvés dans la journée de vendredi, affirment des sources locales. Certaines victimes ont été décapitées sans autre partie du corps. Ce sont des agriculteurs ainsi que des jeunes volontaires qui procèdent au ramassage de ces dépouilles qui sont acheminées au Nord Kivu pour leurs inhumations. population. Pour rappel, ces civils ont perdu la vie lors des attaques des rebelles des EDF entre le 8 et le 10 juillet en cours dans 4 villages situés à la limite entre l'Ituri et le Nord Kivu. Ces rebelles fuient la traque de la coalition armée ougandaise et FARDC qui pilonne depuis près d'une semaine leur bastion dans la forêt de Lolwa. Par ailleurs, dans le territoire de Beni au Nord Kivu, quelques heures après le massacre des agriculteurs par les EDF dans les blocs agricoles de l'agglomération des Beimanyama et dans la partie sud du territoire d'Irumu, les voix s'élèvent pour exiger le renforcement des mesures de protection des civils dans cette zone considérée comme grenier agricole de la région. C'est le cas du député provincial élu du territoire de Beni, Alain Siwako. Il estime qu'il est plus que temps de renforcer la mutualisation des forces entre les FARDC et l'armée ougandaise pour mettre fin à ce cycle infernal des tueries. Alain Siwako est joint par Marc Marofimbo.
Voilà 4 jours, on est en train de compter des morts à territoire de Beni et à territoire d'Irumu. Jusqu'à maintenant, nous avons dépassé 30 corps déjà ramassés des simples cultivateurs qui ont été massacrés par les ADF Nalu. Et donc, nous sommes en train d'alerter les autorités au niveau de Kinshasa. Vous savez que ça faisait déjà 6 mois d'accalmie. Voilà, après 6 mois d'accalmie, les ADF encore reviennent dans les mêmes bastions en train de gorger la population civile. Et donc, nous demandons vraiment des opérations Soudja, FRDC, UPDF de prendre toutes les dispositions afin d'arrêter ces massacres qui ne font qu'enrayer du jour le jour la population du territoire de Beni, de Mambasa, d'Irumu et de Lubero.
Rendons-nous dans la province du Maniema. Le parc national de la Lomami fait face aux menaces des riverains qui pratiquent clandestinement la chasse. Pour sa protection, 72 éco-gardes de la deuxième promotion ont prêté serment après une formation de 3 mois, ce qui ramène à 154 leur nombre. La cérémonie de leur prestation de serment s'est déroulée jeudi à Dingui en présence d'un représentant du gouvernement provincial et du responsable de ce parc. Florence Kizalunga, reportage.
Les éco-gardes à l'honneur ont, à travers cette cérémonie, pris l'engagement de sauvegarder les intérêts de la République et du Parc national de la Lomami. L'un d'eux, Crespin Osoko, s'est ainsi exprimé.
C'est un honneur. Nous promettons que nous allons veiller à la protection et à la sauvegarde.
Pour les chefs des sites, ces éco-gardes vont se constituer en commando de la conservation de la nature. Radar Nishuli.
Nous voulons constituer un commando de la conservation de la nature. Et nous voulons qu'à partir de cette formation ici, que le centre de Dingui devienne maintenant un centre pour la formation de base. La grande menace ici, c'est la chasse. C'est un peuple chasseur.
Le représentant de l'autorité provinciale exhorte ces derniers à la discipline et à capitaliser les notions apprises. Lawa Moselemani, ministre provincial de l'Intérieur.
Aux éco-gardes, c'est de capitaliser les différentes consignes. Ce sont des paramilitaires, donc sans discipline, ça ne va pas avancer. Aussi à la population environnante, de collaborer avec l'ICCN, de ne pas faciliter la fraude dans notre parc qui fait la beauté de notre province.
Les chefs de site appellent ainsi à la bonne collaboration de tout le monde pour la protection de ses patrimoines. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Sécurité, développement et lutte contre le terrorisme. Au centre de la visite du président somalien en Turquie, Recep Erdogan a reçu vendredi à Ankara son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamud, occasion pour le président turc de réaffirmer le soutien de son pays à la lutte de Mogadiscio contre les Shebab, des extrémistes responsables de plusieurs attaques en Somalie. Recep Erdogan a, dans la foulée, mis en avant l'intérêt de la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Notez que depuis 2011, la Turquie participe à la formation des militaires somaliens. Les deux pays sont liés notamment par un accord de défense signé en février 2024 pour une durée de 10 ans.
L'invité.
L'Université libre des pays des Grands Lacs, ULPGL Goma, a organisé du 9 au 11 juillet en cours un colloque international à Goma. Ces 3 journées auxquelles ont pris part des scientifiques nationaux de l'Afrique et du monde étaient axées sur la problématique des perturbations environnementales et le développement durable, contribution multidisciplinaire. Pour en parler, nous recevons le professeur Ndemo Mbassa. Il est doyen de la faculté de santé publique à l'ULPGL Goma. Il répond aux questions de Chris Mukanda. De ma tante.
Professeur Mbassa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
L'Université libre des pays des Grands Lacs, ULPGL Goma, a organisé 3 jours de colloque, un colloque international. Voulez-vous nous en parler?
C'était des journées scientifiques, colloque international, avec comme thème central perturbations environnementales et développement durable, contribution multidisciplinaire. Voilà un peu le thème central autour duquel nous avons pu discuter avec des experts, des professeurs d'université. Et ils étaient à 15, certains du Canada, à une autre partie de la France, l'autre partie du Niger et d'autres à partir de Kisangani, surtout l'université de Kisangani et aussi on fait partie des panels.
Et ceux qui sont intervenus à distance, donc ils l'ont fait par visioconférence.
Et nous avons eu de la chance que la technologie nous arrange parce que on les a suivis comme si ils présentaient en présentiel.
Alors, parlez-nous du contexte dans lequel se tient ce colloque.
On a remarqué que les perturbations environnementales sont entrées et peuvent empiéter sur le développement durable. Alors que nous, comme scientifiques, comment est-ce que nous devons nous engager pour que ces perturbations environnementales ne soient pas frais au développement durable? Voilà un peu, à bref, l'idée du contexte qui nous a poussé vraiment de voir comment vous développez cette thématique.
J'apprends qu'il y a eu même des allusions faites au droit en matière de l'environnement.
Effectivement, parce que il n'y a pas aussi l'environnement, ça le droit de l'environnement. Dedans, il y avait des environnementalistes qui ont présenté. Il y a des thématiques qui avaient été développées. On développait 5 par jour. Le premier intervenant du premier jour, le professeur Kiang Bindu Kennedy, qui est aussi notre secrétaire général académique de l'ULPGL, il a présenté sur le référentiel des droits humains dans les contentieux climatiques, lecture croisée des systèmes du Global North et Global South. Il y a un autre qui a abordé ça aussi autrement, ça c'est à partir de Durba. Il parlait de l'écologisation du droit de l'environnement pour montrer que nous tous, nous devons converger pour voir comment nous pouvons contribuer à la conservation des écosystèmes et la biodiversité, bien sûr, en utilisant l'approche interdisciplinaire pour la gestion durable.
Professeur, les perturbations environnementales, c'est quand même une préoccupation. Parce que cela a un impact sur le développement durable. À quelles recommandations ou conclusions le colloque est arrivé?
D'abord, la première recommandation, c'est que l'université doit collaborer avec la population pour mener des actions de lutte contre le changement climatique, en l'occurrence la reforestation, le reboisement. La deuxième recommandation, c'est de voir comment, au niveau régional, nous pouvons aussi conjuguer les efforts ensemble pour protéger ce que nous avons comme ressources contre le réchauffement climatique. Mais à la fin, il y a des actions à mener qui étaient à moins de 100. À part la publication des actes du colloque, nous allons devoir maintenant analyser ces actions-là, juste comme perspective, et voir comment ensemble, nous avec la communauté, nous devons maintenant mener des actions ensemble, au lieu d'isoler l'université, mais que nous puissions travailler ensemble avec la population pour que cela soit durable.
Professeur Mbassa, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Je vous remercie beaucoup.
Voilà, notre invité est doyen de la faculté de santé publique à l'Université libre des pays des Grands Lacs, ULPGL Goma. Il répondait aux questions de Chris Moukand-Matande. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jean Gandou. Dieudonné Nyangassa à la mise en onde, Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci d'avoir été des nôtres.